Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 14 janvier 2022. Salut Germain.
Bonjour Antoine.
Bon, avant qu'on parle...
Bonne année.
Oui, bonne année, c'est vrai, parce que c'est notre première émission, bien que ça fait... On a eu une petite pause la semaine passée.
Une petite pause qu'on a appréciée.
C'est ça. Pas plus compliqué que ça. Et puis, avant de se lancer dans les nouvelles, juste mentionner que dans quelques instants, 11h30 sur TVA, ben c'est le guide de l'auto.
Ah.
Ne manquez pas cette semaine l'essai du Tundra hybride avec lequel je me suis amusé en hors-route aussi. On a remorqué, on a fait du hors-route. Mathieu a analysé la planche de bord et les gadgets et la caméra 360 et tout ça. Fait qu'on s'est amusé un petit peu avec ça. Fait que vous irez voir ça.
Donc, le guide de l'auto dans ta tablette, dans ta bibliothèque, sur ton ordi, dans tes oreilles, sur la
c'est
télé,
ça.
Dans ton journal de Montréal, il
c'est
est partout.
C'est écrit sur mon manteau aussi.
Ah, OK.
Oh, ouais. Mais,
juste sur ton manteau?
Oui.
OK.
Juste sur mon manteau.
D'accord.
J'ai quelques t-shirts aussi, mais là, ça arrête les inscriptions. Alors, véhicule nord-américain de l'année, ça a été dévoilé. Non pas sans une certaine controverse, je te dirais, parce
absolument.
Qu'évidemment, moi, je suis membre du jury du NACTA, et là, les prix sont sortis cette semaine. On savait que le F-150 Lightning allait gagner contre le Lordstown Endurance, que personne connaît, et le Chevrolet Silverado ZR2. C'était évident que c'était le camion de l'année. Et d'ailleurs, il a raflé à peu près tous les points. Là, c'était clair.
Non seulement c'était une très grande nouveauté, mais c'était la seule nouveauté marquante dans ce segment.
Ouais, c'est
là,
ça, c'est ça. Du côté des VUS, on a trouvé ça un peu curieux parce que c'est la Kia EV6. Puis tu vois, j'ai de la misère à... C'est un mot, je dis...
La Kia.
Parce que c'est pas une voiture, pas un camion. Donc, c'est pas un la, c'est pas
segment, un... segment, mais là, qui est classé dans
le segment
les VUS,
des VUS. C'est ça.
Et moi, ça m'a fait sourciller parce que ben, le véhicule, pour moi, est arrivé l'année passée. Donc, c'est pas une nouveauté, mais...
Mais le véhicule est arrivé l'année passée, mais il ne se qualifiait pas l'an passé parce qu'il est arrivé sur le marché après le 1er janvier.
D'accord.
Et dans ce contexte-là, les véhicules ne sont pas éligibles. C'est la raison pour laquelle l'Ioniq 6, la nouvelle Accord, n'était pas éligible cette année chez les voitures. Mais le V6 était présente là-bas aussi dans sa version GT à haute performance. Fait qu'on avait pu essayer différentes déclinaisons. Le V6 a gagné par une petite avance sur le GV60 et... j'oublie le troisième véhicule, là. Mais c'était pas aussi clair.
C'était le Cadillac Lyriq.
Cadillac Lyriq, voilà. Puis le Cadillac Lyriq n'a pas remporté la palme. Moi, je pensais qu'on l'aurait. Mais comme on avait uniquement une version propulsée qui n'est pas très rapide.
Ni très convaincante.
Non, c'est
là.
Ça. Ben, je pense qu'on a un peu manqué notre coup chez Cadillac avec ce véhicule-là parce que l'année prochaine, on aura une gamme beaucoup plus grande, beaucoup plus complète, avec des versions 4 roues motrices plus puissantes. Et à ce moment-là, le Lyriq aurait eu la chance de remporter peut-être la palme, mais ça pourra pas se produire une deuxième fois.
Parce qu'il faut savoir que, bon, c'est une majorité de journalistes américains qui composent le jury.
Ouais.
Parce qu'on a tendance, des fois, à être un peu patriotique, peut-être.
Ah, pas nécessairement.
Non, pas nécessairement.
Je te dirais qu'il y a des marques...
Il y a place au véhicule
Volvo
étranger.
A gagné beaucoup de prix. Honda a gagné beaucoup de prix au NACTA. Et alors, c'est pas... Non, moi aussi, j'aurais pu penser ça. C'était peut-être un peu plus vrai dans les années 90, où systématiquement, tu voyais des Chrysler Cirrus, des Concorde, des Néons, des Ford Taurus gagner des prix. Mais je te dirais que depuis un bon bout de temps, c'est beaucoup plus partagé. Puis faut comprendre un truc, c'est que j'ai trouvé ça audacieux que... les journalistes principalement américains votent pour deux véhicules électriques. Bon, le F-150, c'était une évidence, mais le EV6, Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de chroniqueurs qui sont sur le jury, qui vivent dans la région de Détroit, où l'électrique se vend pas beaucoup. Il y en a qui vivent dans la région de New York, d'autres en Californie, d'autres en Floride. Alors, c'est sûr que c'est des journalistes nord-américains qui viennent des quatre coins de l'Amérique et où souvent les véhicules électriques sont assez impopulaires.
Et les deux autres véhicules en lice étaient aussi électriques. Là.
Oui, absolument.
Donc, de plus en plus,
c'était évident. Et chez les voitures...
Pour moi, c'est la grande surprise.
Ben oui, parce qu'il y avait la Nissan Z en lice, il y avait la G80 électrique, qu'on pensait qu'elle allait être la grande gagnante cette année.
En même temps, c'est un véhicule tellement cher que...
C'est un véhicule cher, mais pour le marché américain, mm-hmm. c'est un véhicule important. Et chez nous, et c'est pour ça que moi, je pensais que cette voiture-là allait gagner, parce qu'aux États-Unis, c'est le genre de voiture qui se vend. Et comme les Américains n'ont plus rien à offrir, il n'y a plus de Lincoln, il n'y a plus de... Bon, il y a une Cadillac CT5, mais...
Mais on est encore friands aux États-Unis de berlines, entre guillemets, traditionnelles.
Plus classique. Ouais. Tu sais, les anciens acheteurs de Chrysler 300, de Lincoln Town Car, des trucs comme ça, il y en a aux États-Unis et ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Et la Genesis G80 est probablement la meilleure réponse à ce besoin-là. Et là, on a une version électrique qui est franchement convaincante. Eh bien, par 5 points seulement, elle a perdu. Donc, 169 points pour la Genesis G80 électrique et 174 points pour, tenez-vous bien, l'Acura Integra.
Moi, ça m'a jeté en bas de ma chaise. C'est une voiture compacte à haillons élue voiture de l'année par principalement des journalistes américains. C'est très, très, très étonnant, là.
En fait, j'ai essayé de comprendre, puis j'ai essayé de trouver la réponse à ça. Parce que la Civic est une voiture qui a gagné des prix à maintes reprises au NACTOY.
Mais la Civic rejoint un marché large. Tout le monde connaît. Tout le monde a déjà eu une Civic ou connaît quelqu'un qui en a eu une. Une Integra, c'est quand même un peu plus niché. Là.
On a ramené le nom Integra aux États-Unis. Ça fait beaucoup plus l'unanimité aux États-Unis. C'est un succès plus intéressant sur le plan marketing aux États-Unis que chez nous. Il faut aussi comprendre que chez nous, les voitures Honda et Acura sont plus achetables, les prix sont exorbitants. Mais aux États-Unis, ça demeure un peu plus compétitif.
Okay.
Ce qui arrive, c'est qu'on nous vend carrément les voitures en dollars US au Canada. Mais quand tu regardes le prix de ces véhicules-là aux États-Unis, je te dis pas que ce sont des aubaines, mais... disons que le choc est moins drastique que pour nous, acheteurs canadiens. Alors,
Est-ce que tu as voté pour l'Integra?
La notion, je lui ai accordé quelques points, mais la très grande majorité des points sont allés à la Genesis G80. Et j'en discutais avec notre collègue Marc Lachapelle.
Mm-hmm. Qui fait partie du jury, là,
c'est
également.
Ça. Et qui lui aussi était un peu outré par ce choix-là. On s'est dit que si lui et moi avions accordé. Alors, je ne connais pas ce que Marc a fait comme pointage, mais si évidemment on avait accordé aucun point à l'Acura Integra et qu'on avait donné, nous deux, tous nos points à la Genesis, elle aurait gagné.
Oui.
Alors, c'est te dire à quel point.
Ça peut se jouer par très peu.
C'était serré, là. C'était vraiment, vraiment serré. Bref, est-ce que ça va lui permettre à cette voiture-là d'aller chercher un rayonnement qu'elle n'a pas? Au Canada, c'est une voiture qui ne se vendra pas. Elle est trop chère. Les gens ne se reconnaissent pas dans la marque Acura. Bien qu'elle soit intéressante, amusante à conduire, il n'y a rien qui va réussir à me vendre cette voiture-là en avant d'une GTI qui coûte 6-7 000 piastres de moins. Mm-hmm. Pour moi, c'est évident. Donc... l'Integra, aux États-Unis, c'est peut-être une formule qu'on attendait. Faut aussi comprendre que chez Acura, au Canada, on a commencé à vendre des voitures compactes basées sur la Civic en 97 avec la 1.6 EL. Toutes ces générations de voitures-là n'ont pas été offertes chez Acura aux États-Unis. Donc, la 1.6 EL, la 1.7 EL, la CSX, ça n'a pas été vendu aux États-Unis. La première qui a été vendue, c'est l'ILX. Et elle est arrivée dans un moment... d'abord, c'est une voiture plus petite que la Civic, ce qui ne plaisait pas aux Américains.
C'était une berline, donc un format plus attirant.
C'est ça.
Pour la
mais c'est une auto qui
n'a
pas connu le succès qu'il fallait. Et pour les acheteurs américains, on a essayé avec une ILX une fois, ça n'a pas marché, et on relance avec l'Integra. C'est pas comme si ça faisait 25 ans qu'on vendait de la voiture compacte chez
Acura. Contrairement au Canada.
Fait que c'est pour ça que je te dis que la perception n'est pas la même. Et pour les Américains, c'est plus un vent de fraîcheur que pour nous, cette voiture-là. Mais j'ai quand même un peu de misère avec ça parce que le choix est disons...
C'est étonnant.
Oui, c'est étonnant, puis c'est surtout très, très, très près du résultat de la G80. Je disais d'ailleurs à Marc Lachapelle à la blague que si la G80 s'était appelée Donald Trump, elle aurait demandé un recomptage.
Est-ce qu'elle aurait dit que le jury était truqué?
Ouais, c'est ça, je ne sais pas. Voilà. Enfin, bref.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Il y a de ces hasards des fois qui surviennent. L'an dernier, durant la période des fêtes, je mettais à l'essai, Germain, la nouvelle Golf GTI 2022, avec laquelle j'avais eu une petite mésaventure. Et pendant plusieurs mois, on s'est demandé ce qui s'était passé. Et finalement, on a eu la réponse. Il y avait un vice de conception sur la voiture.
Non, c'était pas un bloc de neige. Non, c'était pas la personne qui l'avait conduite avant toi,
non,
qui avait été, disons, pas très précautionneux. C'était carrément un vice de conception,
en fait,
mais
ça,
on n'osait pas l'admettre jusqu'à ce que Transport Canada publie un rappel. Là.
Bon, c'est ça. Alors, pour la petite histoire, il y a une durite du système de refroidissement qui avait cédé parce que cette durite-là frottait contre une paroi métallique dans le compartiment moteur et le véhicule s'est vidé littéralement de liquide de refroidissement.
On me dit à l'oreille que ce n'est pas recommandé.
Non. Ce n'est pas recommandé. Et le moteur a saisi.
Voilà.
Littéralement. Et toi, un an plus tard, dans la même période, tu as conduit la même voiture.
Oui.
La GTI 2022, mais la même voiture
avec
un nouveau moteur.
Oui, en fait, c'est pas la même voiture. Elle est équipée pareil, mais le numéro de série n'est
okay.
C'est sa jumelle, autrement
c'est ça,
dit.
C'est
mais
ça.
C'est mais pas précisément
même couleur, elle. Même habillage, oui. Même tout ce que tu
même,
voudras.
Même équipement,
ouais.
Tout était là. À la différence que moi...
Tu n'as pas sauté le moteur.
Je n'ai pas sauté le moteur.
Félicitations.
J'ai pu terminer mon congé des fêtes au volant de cette voiture-là. Mais je t'avoue que j'ai eu cette idée-là en tête, ça m'a travaillé tout le long.
T'as-tu essayé de la briser juste pour...
Non. Je l'ai poussé, disons ça comme ça, parce que c'est une voiture qui est capable
d'en
prendre.
C'est surtout une voiture belle fun.
C'est extrêmement plaisant à conduire. J'étais très curieux de la mettre à l'essai dans un contexte hivernal aussi, parce que des sportives en hiver, ça nous adonne peut-être un peu moins souvent. Mais franchement, ça se débrouille très bien. On est tous pâmés devant la Golf R qui est le Nec Plus Ultra, qui a 4 roues motrices, qui est encore beaucoup plus puissante. Mais je réalise en conduisant une Golf GTI qu'il y a un petit quelque chose avec cette voiture-là. Est-ce que c'est son habillage, justement, qui peut plaire aux gens qui aiment la GTI depuis toujours, peut-être? Elle n'est pas du tout handicapée par le fait qu'elle ne soit que de... Que ce soit une voiture traction, finalement, à condition de savoir comment désactiver le système d'antipatinage.
Hein?
Parce que, anciennement, c'était un bouton, là, soit à gauche, soit à droite.
Maintenant, tu vas sur YouTube pour apprendre comment.
Exactement. Et je vous laisse aller le voir, parce que sinon, ça va prendre une demi-heure pour vous l'expliquer. Et le système est très, 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 très intrusif. Alors, il suffit qu'il y ait une mince couche de neige ou de glace et voilà, ça patine, ça bloque. Donc, faut enlever ça au plus vite. Le modèle était équipé de la transmission DSG, donc automatique à double embrayage à 7 rapports. C'est une option de 1 400 $. Nous sommes, toi et moi, des puristes de la boîte manuelle. J'ai envie de dire, OK... Prenez la boîte manuelle, on sait que il n'y en aura pas indéfiniment, mais en même temps, si on est pour être coincé dans la circulation soir et matin, la DSG, ça ne fait pas du mauvais travail plus.
Ben non.
Il y a une espèce de petite hésitation des fois peut être un peu tannante. Mais sinon ça fait du bon. Une fois qu'on est lancé, ça se passe bien. On aime ça. Le plaisir de conduire est au rendez-vous. Il l'était avant. Il continue de l'être. Esthétiquement, à l'extérieur, ça ressemble beaucoup, je trouve, au modèle de septième génération. Mais quand on monte à bord, c'est complètement différent. Toute l'instrumentation numérique, et je sais que ça ne te plaît pas.
Ça ne me plaît pas, mais il y a des problèmes avec.
Voilà, j'y arrivais. Il y a des irritants. Non seulement on n'a pas d'aiguille physique et c'est peut-être moins beau ou plus beau, mais enfin, dans le système d'infodivertissement, il y a des vrais irritants. C'est lent. C'est un système qui est très lent. Voilà.
Mais puis moi, je veux dire, je connais des gens qui se sont procurés des Golf GTI, des Golf R. Ils ont eu des problèmes avec notamment la caméra de recul. C'est un problème connu chez Volkswagen. Il y a une réinitialisation du système qui se fait à tout bout de champ quand tu roules. Donc, tu perds littéralement tout.
Oui, ce qui est un problème.
Ce qui est un sérieux problème.
Parce que tout passe là. Et on pourrait se réjouir en voyant que les boutons du... j'utilise les guillemets, là, des boutons, parce que c'est pas vraiment des boutons. C'est plus des boutons tactiles là pour le volume de la radio ou la climatisation et le chauffage, par exemple. Et on peut facilement les accrocher quand on navigue dans le menu.
Ouais.
Bref... Côté technologique, on n'est pas à point, mais côté ergonomique non plus, je trouve qu'il y a des lacunes. Mais sinon, pour le comportement sportif de la voiture, c'est carrément génial. J'ai toujours eu un faible pour la Golf GTI et j'ai pas le choix d'admettre que c'est
même si elle s'est embourgeoisée, elle a gardé son ADN.
Absolument. Elle demeure une GTI. Elle continue d'offrir ce qu'on veut d'une GTI. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle. De ton côté, Antoine, tu as parcouru 2 ou 3 kilomètres là, au volant du Volvo XC90
plus 3500. le temps de te dire que, d'abord, on a optimisé en 2022 la puissance, l'autonomie électrique qui est à 51 ou 53 kilomètres annoncée. Dans le contexte du temps des fêtes, je n'ai pu faire mieux que 38-39 km en mode 100% électrique. Et ce que je peux te dire, c'est que lorsque tu roules en électrique et que tu as besoin soudainement des 4 roues motrices parce que les roues patinent, le délai de réponse du rouage intégral m'a littéralement fait penser à celui d'une fourgonnette Montana ou d'un Aztec. Les systèmes Versatrac là, qu'il y avait dans les années 2000, c'est épouvantable comment c'est long à répondre. Donc, tes roues arrière vont parce que, le moteur électrique se situe sur l'essieu arrière.
Ouais.
Donc, les roues arrière vont patiner. Vont bloquer en raison de l'antipatinage. Il y a ensuite du couple qui va être acheminé sur l'essieu avant. Là, ça va répondre. Puis, boum, tu vas gagner 4 roues motrices. Mais le temps que ça se passe, là...
T'as le temps de te faire un café puis d'y
penser. Ça n'a aucun bon sens. Alors, l'hiver, si les surfaces sont moindrement enneigées ou humides, tu sélectionnes le mode 4 roues motrices dans l'écran.
Donc, tu exiges que le moteur à essence soit la partie.
Ben voilà. Alors, c'est sûr que de rouler en mode électrique dans un contexte comme celui-là, ça se fait, mais tu vas avoir un rouage intégral qui n'est pas du tout performant. Alors ça, c'est le point que j'ai trouvé. Bon, y a quand même pas mal de puissance. On annonce 455 chevaux et je peux te dire que ça se débrouille. C'est un véhicule qui est quand même lourd. C'est un véhicule qui est solide. Il n'y a pas de craquement. J'ai trouvé que c'était très, très bien construit. La finition demeure exceptionnelle. C'est sûr que j'avais la version la plus équipée et c'est un modèle, évidemment, T8, avec le moteur 2 litres turbo, suralimenté, hybride rechargeable, beaucoup de technologie. Et c'est un véhicule qu'on loue et qu'on remet après.
J'y arrivais parce que des lacunes de fiabilité. Et là, en plus, avec tout ce lot de technologie...
Un des problèmes les plus connus de ce véhicule-là, c'est le système de climatisation qui, lorsqu'il flanche, ben tu peux plus rouler en hybride parce que le système de climatisation fait aussi fonctionner, se charge aussi de refroidir ou de tempérer les batteries du véhicule.
C'est un vrai problème.
Et si tu n'as plus de clim, tu n'as plus de système hybride, donc tu roules en essence. Bref, c'est un véhicule qui vieillit plus ou moins bien. Et là, je te dirais en plus que comme c'est un modèle qui a été lancé en cours d'année 2015 et qu'on est en fin 2022, début 2023, il a pris quelques rides. Le véhicule demeure confortable, la finition est impeccable. La conduite, ça va, mais la direction, t'es un peu déconnecté, honnêtement. T'as pas le...
C'est pas sportif du tout.
C'est aucunement engageant comme un BMW X5, là, pas du tout.
La puissance est là, mais c'est pas sportif.
Non, c'est ça, absolument. Même si tu le mets en mode sport.
Oui.
Et je te dirais, bon, le système audio, c'est extraordinaire. Les sièges sont extraordinaires, mais à la rangée médiane, le dégagement aux jambes est étonnamment limité.
D'accord.
Il n'y a pas beaucoup d'espace. Moi, je me suis assis à quelques reprises à la deuxième rangée et le passager qui était devant moi, qui était à peu près de ma taille, se plaçait, n'avait pas beaucoup d'espace pour les jambes, lui non plus. Moi, j'en avais pas tant que ça.
Donc, c'est conçu pour des enfants à l'arrière, ben, mais pas ça. Beaucoup plus que ça.
J'ai trouvé que, compte tenu du format du véhicule, tu voyais qu'il y avait quelques années de conception dans le corps. Bon, là, la bonne nouvelle, c'est qu'on va arriver avec le EX90 100% électrique, qui va être son successeur, qui va arriver pour le millésime 2024. Mais le XC90, c'est un véhicule en fin de carrière. Et je te dirais pas que je recommanderais l'achat de ce véhicule-là, surtout pas dans cette version-là qui coûtait 103 000 $ et des poussières. Ça a plus de bon sens. Ça a carrément plus de bon sens.
Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Depuis plusieurs mois déjà, Germain, ben le F-150 Lightning sillonne nos routes. J'ai eu la chance cette semaine de voir en action un Chevrolet Silverado EV et je vous en reparlerai la semaine prochaine parce que j'ai pas le droit de vous en parler aujourd'hui.
Parlez-en pas d'abord.
Mais il en manque un dans le trio, puis c'est le Ram Revolution.
Ah, je pensais que tu allais parler du Tundra.
Non, c'est ça. Il en manque un dans le trio, c'est le Ram Revolution, camion qui a été dévoilé au CES. C'est lui qui a volé la vedette, là, littéralement, au Consumer Electronics Show. Et pour couvrir l'événement qui peut aujourd'hui être qualifié de plus gros salon automobile au monde, parce que c'est rendu là, ben notre collègue Mathieu Roy s'est sacrifié en début d'année et a décidé de prendre l'avion direction Vegas pour aller couvrir ça, pour courir comme une poule pas de tête, littéralement, parce que c'est un environnement tellement gigantesque que tu sais pas où donner de la tête. Mathieu, t'es avec nous?
Bonjour Mathieu.
Je suis avec vous. Bon, avec vous. 28 000 pas en une journée. Tu sais, j'en fais habituellement 10 000. Là. Fait que c'était vraiment des bonnes journées. Mais c'est... En tout cas, moi...
10 000, c'est quand même 8 de plus que des bonnes journées de
mon côté. Non, mais moi, je m'en allais dire, il fait 10 000 pas par jour, considérant la longueur de jambes qu'il a.
Ça fait du millage.
Il se rend plus loin que moi, ça, c'est sûr.
Ça compte pas mon petit jogging, d'ailleurs, là-dedans. Mais le trêve de pas, moi, c'est surtout les roues qui m'intéressaient cette année, parce que plus que jamais, c'est plus le CES pour le Consumer Electronics Show. On faisait des blagues, mais c'est le Car Electronics Show. La plupart des éléments techno qui ont retenu l'attention dans tout le salon avaient un lien avec l'automobile dans plusieurs cas. Et cette année, ça n'a pas fait exception. Vous parlez là du pick-up Dodge là.
Ben écoute, je veux juste avant que tu partes là-dessus, je veux juste te dire qu'on va parler de Ram, de Volkswagen, de Honda, de BMW. 4 constructeurs qui ne seront pas au Salon de l'Auto de Montréal la semaine prochaine et qui ont dévoilé des trucs au CES.
C'est fascinant quand même.
Ouais. Et Mathieu, toi qui entres dans le monde du guide de l'auto à pas de géant actuellement, tu ne peux plus dire Dodge Ram.
Ça fait
10 ans que c'est des Ram 1500, mais je sais, dans le langage populaire, on dit encore des Dodge Ram. Je voulais juste te reprendre, c'est tout.
Puis tu vas continuer de me reprendre parce que dans le monde de l'automobile, moi, c'est la techno, c'est les écrans, c'est les capteurs, c'est les caméras, c'est les centres de divertissement aussi. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on a comme présenté, on n'a pas présenté un véritable camionnette. C'est un prototype de pick-up qu'on a présenté, qu'on veut voir arriver un jour.
Mais qui semble quand même très près de la réalité. Là, ce qu'on
Mais on est en retard par rapport à Ford qui met sur la route tous les jours plein de F-150 Lightning. Oui, voilà. Là, on arrive avec un prototype pour lequel on devra patienter encore longtemps.
Ça ne devrait pas s'appeler Ram Revolution, ça devrait s'appeler Ram Reaction, parce qu'on est en réaction à Ford. C'est ça.
Ben, ouais. Vous avez vu un peu les technologies qu'il y a là-dedans. Là, donc, évidemment, c'est électrique. Il y avait un projecteur aussi qu'on pouvait utiliser pour pouvoir projeter sur tantôt un mur et tout ça pour, je ne sais pas moi, des plans, des trucs du genre. Et le véhicule peut suivre le propriétaire, un peu comme un chien nous suit.
Ben oui.
Donc, sur un chantier, tu peux le faire te suivre, par exemple, pour aller d'un point A à un point B. Écoute, il y a sûrement toutes sortes d'utilités que je n'ai pas encore vues. On va avoir plein d'autres détails qui vont sortir. On va avoir les premiers, probablement, les premiers véhicules utilisables qu'on pourra aller voir éventuellement.
Ouais.
Mais il y a encore beaucoup de questions sur ce véhicule-là, à mon avis.
Oui, puis là, bon, évidemment, je pense qu'on a dévoilé différentes déclinaisons. On a aussi constaté que c'était un véhicule monté sur un châssis indépendant. Donc,
c'est une distinction par rapport à Chevrolet qui opte pour la conception monocoque, là.
Oui, exactement. Donc, on mélange une construction très traditionnelle avec de la technologie d'avant-garde. Puis, je trouve que côté look, ben, on s'en va un peu ailleurs. Ça fait du bien aussi parce que je trouve déjà que le Ram d'été, qui est le Ram de nouvelle génération lancé en 2019, commence à prendre quelques rides. Et je pense que c'est un design qui va moins bien vieillir que son prédécesseur, qui est rendu très vieux, mais qu'on vend encore. On parle évidemment du Ram DS qui est un Ram classique. Et là, Mathieu, ça se peut que tu nous perdes parce
Es-tu toujours là?
On recule 10 ans en arrière dans la conception des Rams.
À l'époque où il s'appelait encore Dodge.
Oui, à l'époque où il s'appelait encore Dodge.
Là, tu reviens à mon Dodge Ram, là.
C'est ça, exactement. Mais tout ça pour dire que le Ram Revolution, sur le plan esthétique et sur le plan de l'aménagement intérieur avec tous ces écrans que tu as pu voir, c'est quand même quelque chose, là.
Exactement. Mais encore une fois, ce qu'on a vu, c'est des espèces d'images de synthèse. J'ai hâte d'être assis dedans, mais le look, moi, m'a vraiment plu. J'irais pas jusqu'à dire qu'on est proche du Cybertruck, mais je trouvais par moment qu'il y avait des petits airs un peu, genre, un peu plus écrasés, un peu plus profilés. Moi, il m'a vraiment plu, là. Tu sais, le Cybertruck, je sais qu'il crée vraiment la controverse. On adore ou on déteste. Mais
je fais partie de la deuxième catégorie. Ouais.
Mais on peut pas adorer ou détester quelque chose qui n'existe pas.
Ouais, c'est sûr.
Parce que ça fait quoi, là? 4 ans qu'on nous a dévoilé ça, puis on l'a toujours pas vu, là. Mais enfin. Dis-moi, Mathieu, quand GM avait présenté autant le Sierra électrique que le Silverado électrique, on avait insisté sur le fait qu'on allait continuer de produire des camionnettes pour le petit travailleur, là. Donc, autrement dit, même si on a un objet électrique et technologique entre les mains, on va continuer d'avoir des camionnettes, et là, j'ouvre de très, très grands guillemets, mais ordinaires. Est-ce qu'on s'est prononcé de ce côté-là chez Ram ou on est resté tranquille?
Autrement dit, est-ce qu'il va y avoir des versions plus accessibles ou c'est que des véhicules de grand luxe, là?
Moi, la seule chose que j'ai vue, c'est le Nec Plus Ultra. Et c'est souvent comme ça aussi qu'on va présenter des véhicules. C'est-à-dire qu'on va vous montrer les plus récentes technologies, leurs véhicules avec lesquels ils veulent faire aussi le plus d'argent pour rapidement essayer de rentabiliser la recherche et le développement. Ouais. J'ai pas vu quel genre de véhicule on pourra, ou jusque où ça pourra, entre guillemets, descendre. Mais, tu sais, j'espère aussi parce que c'est la gamme de véhicules les plus vendus dans le monde, les pick-up. C'est extrêmement important pour le virage énergétique, pour la transition entre l'essence et l'électrique. C'est qu'on arrive à faire ce genre de véhicule-là, un, accessible, deux, robuste et résistant, et qui répondent aux besoins des utilisateurs.
Non, absolument. Bon, évidemment, toi...
Dernière question, est-ce que c'est toujours Dan Bigra qui fera les annonces? C'était la dernière question.
Je pense que quand ils seront rendus électriques, je pense que ça va être...
Des annonces muettes?
Buzz Lightyear.
Oui, c'est ça.
Buzz Lightyear.
Ou des annonces muettes, étant donné que le camion ne fait plus de bruit.
Oui, c'est ça.
Bon, voilà, on s'égare.
Bon. Mathieu, tu étais là, tu étais sous invitation avec Volkswagen qui a présenté une voiture là-bas que j'avais pu voir dans un local fermé au Salon de l'Auto de Los Angeles parce que la voiture était présente à Los Angeles à l'événement, mais non dévoilée au public. Et il n'y a que quelques personnes qui ont pu voir ce que toi, tu as vu au CES à peu près 2 mois plus tard. J'avais pas le droit de publier rien, j'avais le droit de rien dire, mais... on savait que c'est cette ID7 qui allait être dévoilée au CES et on l'a dévoilée dans une présentation assez particulière, mais je trouve ça intéressant qu'on dévoile une voiture d'une certaine dimension. Là, on peut imaginer que cette voiture-là va prendre le flambeau à la fois de la Passat et de l'Arteon en Amérique du Nord. Alors, qu'est-ce qu'on a appris sur cette voiture-là?
Qu'on ne savait pas dans le communiqué de presse, bien peu de choses. Moi, j'étais content de la voir en vrai. Pour donner une image aux gens, je pense qu'on peut dire que c'est une sorte de Passat électrique. Êtes-vous d'accord avec moi?
Oh, oui, ça, absolument. Mais qui a l'avantage d'avoir un haillon. Donc, c'est
à mi-chemin entre la Passat et l'Arteon.
Et l'Arteon, c'est ça. L'Arteon qui est une voiture
plus haut de gamme.
Plus haut de gamme, cinq portes. Ça demeure quand même format berline. Intermédiaire slash pleine grandeur, ce que les Américains veulent avoir, et c'est sûr qu'on va aller jouer dans un territoire où il y a peu de joueurs en ce moment. Je pense que c'est une belle opportunité d'affaires pour le marché américain parce que, contrairement à chez nous, ce type de véhicule-là se vend encore bien.
Mais pour combien de temps?
Mais pensez à l'Accord, à la Camry, qui sont encore des best-sellers devant les Corolla, les Civic aux États-Unis. Alors ça peut être une voiture bien intéressante. Sur le plan technique, ça dit quoi?
On n'a toujours pas l'Accord électrique. Fait que quand ça va débarquer, ça va peut-être plaire à pas mal de monde. Mais on a parlé d'une autonomie de 700 km. Mais avec les standards et les mesures européennes, je pense que vous pouvez peut-être faire la précision, on fera pas 700 km, on va faire quoi? 550 km,
parce que WLTP, là, c'est très, très, très optimiste, mais attendez-vous à peu près 550 km ici.
Ben, c'est ça. Bon, puis de l'autre côté de la technologie, ben évidemment, il y avait un écran de 15 pouces qui n'est pas, c'est pas magique. Là, on en a vu des écrans, puis on va en revoir encore. On a parlé aussi d'une espèce de... Je serai là pour vous les pointer du doigt, les gars, si vous
d'accord,
les manquez.
D'accord.
Et on a parlé d'une espèce de système aussi de confort pour le chauffage ou la climatisation. C'est-à-dire que le véhicule pourra détecter, et à la convenance de la personne, si on va avoir le jet d'air directement sur soi ou davantage une espèce d'être enveloppé par ces espèces du chauffage ou ces jets d'air frais ou chaud. C'est comme, OK, c'est oui, mais j'en aurais voulu un peu plus que ça. On dit, le porte-clé ou la clé sans contact sera traçable ou sera détecté par le véhicule qui pourra déjà commencer à se chauffer ou encore à se rafraîchir.
Ouais, ouais.
Je trouvais que ça manquait de capteurs, ça manquait de caméras, ça manquait de... J'aurais voulu en avoir vraiment plus, là.
On innove parce qu'on est obligé d'innover, puis on présente quelque chose, puis on lance un peu un ballon en l'air, là.
En fait, c'est qu'on a profité du CES pour la dévoiler, puis encore là, je vous rappelle qu'elle avait une peinture camouflage, là, fait qu'on voyait pas parfaitement les lignes de ce véhicule-là.
Non, exact.
Le véhicule va être présenté probablement dans sa version complète plus tard dans un autre salon de l'auto ou dans un événement que Volkswagen va organiser. Mais ce qui est drôle, c'est que les gens disaient « Waouh, la peinture est incroyable ». Là, des fois, il fallait que je précise sur mes médias sociaux. Non, 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 c'est une peinture pour cacher la forme du véhicule.
Oui, c'est ça. C'est pas définitif.
Mais c'est vrai qu'elle était belle. C'était une peinture qui était électroluminescente, donc elle pouvait comme s'éclairer, puis changer d'intensité aussi. Donc, c'était intéressant. Mais j'ai pas eu la démonstration que le véhicule avait une conduite autonome, par exemple.
Non. On est resté très vague sur ce genre d'informations-là.
Exactement.
Moi,
je suis resté un peu sur mon appétit. Cela dit, très beau véhicule, et vous en parliez tantôt, c'est probablement un marché ou un type de véhicule qui va plaire à une certaine part de marché. De toute façon, il y a des gens chez Volkswagen qui sont beaucoup mieux payés que vous et moi pour réfléchir à quel genre de segment va plaire à
la population.
On m'avait dit, moi, chez Volkswagen, qu'elle arriverait là, à peu près au même moment que le ID Buzz, qui est le fourgon passager électrique, et ça devrait être quelque part là, en 2024.
Mi-2024. Est-ce que le ID Buzz était présent, d'ailleurs, au salon?
Il était présent à mon hôtel, fait que une affaire j'ai faite en débarquant de mon taxi quand je suis arrivé à l'hôtel. Je me suis retourné, il y avait des ID Buzz, il y avait un ID4, il y avait d'autres véhicules Volkswagen. Tout de suite, j'ai laissé tomber ma valise, je suis rentré dans le ID Buzz. J'ai fait « Ah, ben c'est ça. T'sais, moi, je peux revenir en char si vous voulez. » Moi, c'est
ouais, ouais,
ça que je voulais. T'sais, plancher plat, super confortable, visibilité. Je veux dire, on voit partout là-dedans. Ouais. Là, c'est comme le véhicule parfait pour des road trips. Là. T'sais, en famille, mais en couple aussi. Là, si vous êtes juste deux personnes, il y a un lit qui rentre en arrière. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu. Là. Ceux qui sont des amoureux de van life là,
ouais, ouais,
vont trouver leur compte, c'est sûr et certain.
Là. Et tu es propriétaire d'une mini-fourgonnette, on peut le mentionner. Là. Donc, tu es déjà un public conquis par les portes coulissantes.
Oui, mais moi, la porte coulissante, là, faut pas la négliger. C'est tellement pratique. Là. Pratique rentrer les enfants, pratique rentrer du matériel. Ça te retombe pas dans la face, dans le dos quand t'es dans une côte. Non, 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 moi, je...
C'est assez drôle qu'on parle de ça quand, cette semaine, Germain et moi, mettons à l'essai une Pacifica hybride rechargeable et une Toyota Sienna hybride à 4 roues motrices.
C'est la semaine de la minivan.
C'est la
là.
Semaine de la minivan, littéralement.
À quand le retour de la Chevrolet Astro?
Ouais.
Non, 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 non. À quand le retour de la Mazda 5?
Oui.
Ah, OK. Ouais, ça, je pense que tu vas attendre plus longtemps. J'ai l'impression que Chevrolet pourrait relancer l'Astro avant que Mazda relance la Mazda 5. Je te dis ça comme ça.
Bon. Non, mais familial à la porte coulissante, là.
Ouais, c'est ça. Mathieu, tu nous avais parlé l'an dernier, durant les derniers mois, d'une voiture qui t'avait interpellé la dernière fois que tu étais allé au CES. Sony avait dévoilé une voiture. Et là, contre toute attente, on a dévoilé un projet conjoint, quelque chose de beaucoup plus près de la production. Une voiture 100% électrique, concept, évidemment, conjointement construite entre Sony et Honda.
On était vraiment très près du produit fini, j'ai l'impression, parce qu'on a déjà annoncé qu'on pouvait précommander en 2025, livrer en 2026. Donc, c'est assez sérieux.
On va l'acheter chez Radio Shack ou chez Honda, cette auto-là?
À la maison Sony. Ouais. En fait, le projet s'appelle Asila, A-S-E-E-L-A, et c'est effectivement la combinaison entre Honda, grande surprise, et Sony. Donc oui, moi, il y a quelques années, on était à la présentation de Sony au Consumer Electronics Show, donc après des caméras, des appareils photo, des télés, boum! Une voiture. Là, on était tous tombés sur le derrière. On l'a pas vu venir pas en tout. Et je me doutais qu'on allait nous présenter une deuxième, ce qui a été fait mouture. Et là, c'est comme un peu l'espèce de troisième version. Mais là, on a vraiment annoncé le partenariat avec Honda. C'est une voiture qui sera bien sûr avec tous les accessoires nécessaires pour la conduite autonome. On a d'ailleurs prévu toutes sortes d'écrans à l'intérieur pour pouvoir travailler, pour se divertir. Et comme c'est Sony, jouer à des jeux vidéo, oh tiens donc, sûrement que le marché PlayStation ne sera pas étranger à tout ça. Il y a à peu près 45 capteurs autour du véhicule. Et je dois avouer que ce qui m'a surpris une fois que j'ai décanté un peu là, la vision de ce nouveau véhicule, c'est que je me suis dit, comment ça se fait que Honda a besoin de Sony pour se lancer dans la production d'un véhicule électrique?
Ben en fait,
c'est probablement vous qui avez la réponse.
Ben en fait, la question que j'allais te poser, c'est la suivante. Est-ce que tu as l'impression que Sony a développé une voiture, mais que parce que Sony ne vend pas de voiture, on s'est associé avec Honda, qui est maître dans l'art de le faire, pour commercialiser une voiture qui a très majoritairement été développé par Sony?
Ben pour moi, c'est exactement ça qui s'est passé. Là.
J'aimerais ça savoir quelle portion a été développée par Sony, mais peut-être que Sony déjà faisait affaire avec des ingénieurs, des genres de dessinateurs, des penseurs de chez Honda. Je ne sais pas où s'est fait le mariage. Est-ce que depuis le début, Honda n'est pas trop loin de Sony? Presso, je ne le sais pas, mais...
Il y a une chose qui est sûre, c'est que si tu poses la question à Honda, ils te répondront pas. Parce que Honda, ça ne répond pas aux questions d'habitude.
Mais c'est ça, mais c'est quand même intéressant parce qu'on en a parlé déjà dans des balados précédents,
ouais,
de ces mariages-là entre la techno et les constructeurs automobiles. Puis c'est bon, ça va être bon pour les deux parce que là, Sony, bien sûr, vient de se positionner en matière de probablement d'équipementier. Hein, tous les capteurs, les caméras, Sony fait des caméras, Sony fait des écrans, Sony fait des consoles de jeux vidéo. tout ça, ça se retrouve à l'intérieur. Sony va être fait aussi des ordinateurs, mais là, et Honda fait des véhicules. Je veux dire, le mariage, s'il est bien fait, va donner quelque chose qui peut être super intéressant, tu sais.
Mais...
Fait que j'ai vraiment hâte de voir la courbe de progression de ce véhicule-là, puis j'ai hâte de voir les prochaines annonces aussi, parce que s'ils nous ont dit qu'on peut être commandé déjà dans 2 ans, c'est parce qu'ils sont déjà en train
parce qu'il y a un plan.
Produire, là.
Et là, la question qu'on peut se poser, c'est qu'on sait qu'Honda a un partenariat avec GM pour le développement d'un véhicule électrique qui va arriver d'ici l'an prochain.
C'est le prologue.
Le prologue. Ouais. Là, est-ce qu'on s'est associé? Parce que Honda et Sony, ce sont. Sony, c'est une compagnie japonaise, n'est-ce pas? Honda et Sony sont des compagnies qui peuvent travailler ensemble. Mais quand tu regardes ça de l'autre côté. Un Hyundai, un Kia ne travaille pas avec Samsung pour le développement d'un véhicule parce qu'ils ont été capables de le faire eux-mêmes. Sauf qu'Honda est un motoriste, Honda est un constructeur de véhicules à combustion. On avait besoin de quelqu'un comme Sony pour développer un véhicule.
Visiblement.
On a fait affaire avec GM. Est-ce que ça sera de façon temporaire pour le prologue ou est-ce que Sony, c'est le vrai gros partenariat de l'avenir? Moi, c'est là... parce qu'on ne peut pas s'associer avec deux compagnies pour développer deux plateformes, deux bases...
Attention, parce que là, Honda s'associe avec GM, qui est aussi un constructeur automobile. Donc, ils ne sont peut-être pas en conflit d'intérêts s'ils s'associent avec un géant de la techno. Peut-être que dans leur accord... GM a dit, parfait, on y va avec vous, mais vous ne pouvez pas vous associer avec d'autres constructeurs. Puis là, je spécule. Hein,
là, tu parles de l'accord, dans leur accord de la Honda accord ou de l'accord de l'entente?
Hey, Antoine, tu vas me perdre si tu te mets à faire des jokes de même. Tu sais.
Il y a plusieurs éléments là-dedans.
Non, mais je veux dire, tu peux...
Honda élément?
Oui, j'avais saisi. Ah, oui, merci.
Tu peux me perdre assez facilement, c'est Civic arrivé, là.
Ouais, c'est
oh, voilà!
Ouais, j'avoue que ça fit. J'avoue que ça fit.
Ah! C'est un peu roulant. Aïe,
c'est ça. Ouais, c'est ça.
Fait que c'est ça. Fait que bref,
c'est une odyssée de blagues.
OK, ça suffit, c'est ça, là,
on
les
va
gars.
L'arrêter.
Alors, ne manquez pas le guide de l'humour la semaine prochaine.
Voilà. Mis à part Sony Honda, BMW qui a dévoilé une évolution de ce qu'on avait vu la dernière fois.
Oh yes! Et je vous en avais parlé, quoi surveiller au CES. Je vous avais dit que BMW ouais. pourrait bien revenir avec une deuxième génération de son... C'est pas une peinture, c'est comme une espèce de carrosserie, de sa carrosserie qui peut changer de couleur ou encore d'intensité. On l'avait vu en papier, c'est comme une espèce de papier électronique, là, comme sur les visuels.
Ouais.
Donc, ce qu'on avait vu l'année dernière, c'était ça. C'était des tons de blanc jusqu'au noir, puis on pouvait s'amuser là-dedans avec des designs puis avec différentes intensités. Et là, cette année, c'est le projet DDEE de BMW. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste amené ça plus loin en ajoutant la couleur. C'est vraiment funky, là. Tu sais, tu peux faire ce que tu veux. Moi, ça m'a quand même... je sais pas quelle sera l'utilité, je sais pas quel sera le coût, mais j'aime ça quand les compagnies essayent quelque chose.
L'utilité, Mathieu, est-ce que tu veux que je te la dise? On se casse la tête chez les concessionnaires pour commander des voitures. Par manque d'originalité, on commande du gris, du noir, du blanc la plupart du temps, mais il y a un client qui aimerait ça d'en avoir une marine, une bleue, une rouge, une verte, une grima. Ben là, tu pourras bien faire ce que tu voudras si tu es capable de choisir la couleur que tu veux.
Donc, ce sera une voiture unique.
Il y
aura un seul modèle,
imagine-tu
pareil pour tout le monde.
Si, imagines-tu si tu étais capable de modifier la densité de la couleur de ton véhicule ou la teinte? Ou, c'est une technologie qui me semble assez audacieuse. Et là, je ne veux pas m'imaginer ce qui arriverait s'il y avait des travaux de carrosserie à faire sur une auto comme ça, mais...
Tu peux pas mettre de la potée, hein?
Non, ça va être
difficile, c'est ça. Hein? Ouais,
ça sera aussi très, très, très populaire chez les brigands qui prendront la fuite dans un véhicule rouge, ouais. Finalement bleu, finalement gris,
ouais,
finalement jaune. Mais, tu sais, véhicules d'urgence, véhicules commerciaux, je peux voir, mais j'ai hâte de voir aussi, tu sais, où cette technologie-là va nous amener. Ça va, c'est juste, mettons, c'est un prototype, c'est de la technologie, ça avait exactement sa place au Consumer Electronics Show.
Ouais.
Mais c'est le fun, ça tape à l'œil. Puis si on reste chez BMW, dans le kiosque Google, dans l'espèce de maison Google, il y avait une BM où ils nous ont montré la nouvelle génération de Android Auto aussi. Mm-hmm. Peut-être certaines personnes qui ont Android Auto ont vu ou possèdent déjà la nouvelle mise à jour. Donc, on s'est inspiré de certains éléments aussi de Apple CarPlay. Mais c'est le fun de voir comme ça qu'on est capable de séparer l'écran principal avec notre carte d'un côté puis avec d'autres informations de l'autre côté. Mais je vous en reparlerai très certainement sur le guide de l'auto, justement. Là, j'attendais de faire mes mises à jour.
Apple n'était pas là pour présenter sa mise à jour de Apple CarPlay, hein?
Non, Apple, jamais au CES, Amazon non plus. Ben Amazon, il y a des services d'Amazon qui sont là. Puis Google, techniquement, ne sont pas dans le CES. Ils sont à l'extérieur des centres de conférences avec comme d'autres compagnies, mais ils sont pas officiellement dans le CES. Okay. On les voit présents, mais ils sont pas des exposants dans le CES.
Et Mathieu, en matière de conduite autonome, qu'est-ce qu'on a pu voir comme nouveauté cette année?
Moi, ce que j'ai vu, c'est des véhicules, premièrement, des véhicules agricoles. John Deere était là. Caterpillar était là aussi avec un immense camion là qui travaille dans les mines. Là. Donc, ces véhicules-là, c'est pas d'hier.
Je savais pas qu'il y avait des mines à Los Angeles. à Las Vegas, excuse-moi.
Il y avait surtout le camion, Ça rend le groupe, ça. Hein? Oui, Germain, qu'est-ce qu'on fait?
Oui, oui, une chance que tu es là pour rattraper.
Mais ce que j'ai surtout remarqué, c'est des autobus, des minibus autonomes et qui sont, encore une fois, puis je vous en ai déjà parlé, mais modulaires. C'est-à-dire qu'on peut l'adapter en fonction de nos besoins. Vous voulez qu'on puisse loger 8 personnes confortablement assises? Aucun problème. Vous voulez plutôt un système d'étagère pour entreposer du matériel et que le matériel se déplace sur des distances sans chauffeur, on peut le faire. Et c'est par là que va passer la démocratisation plus rapidement de la conduite autonome. C'est par le transport collectif et par le transport de marchandises, de transport de biens. Parce que
il y a quelque chose de logique là-dedans. C'est tout à fait logique, là.
Probablement que les permissions vont être plus faciles à avoir et ça se fait à plus basse vitesse dans le cas d'un autobus parce que tu vas pas aller tout de suite faire de l'autoroute. Et l'autre chose, c'est que de la marchandise, s'il y a un accident, c'est plate, là, mais on a juste perdu du matériel. Et quand on va avoir la conviction que tout ça fonctionne bien puis qu'on aura une feuille de route super intéressante, ça va se déployer super vite après ça aussi dans le monde de l'automobile. Mais pour l'instant, on a d'excellents assistants à la conduite, mais c'est pas encore une conduite autonome où on n'a pas besoin de volant. Et j'ai même vu des projets d'université qui étaient sur place où ils nous ont présenté un tout petit autobus à, je pense, c'était 6 places. C'était pas très gros. Tout était fait en matière recyclée ou réusinée. Et c'était un véhicule pas de volant qui se déplaçait sur le campus universitaire. C'est comme, wow! Tu sais, c'était pas une grande compagnie d'un grand constructeur lié à une grande compagnie techno. C'était une gang de whiz ingénieurs dans un campus universitaire aux États-Unis qui sont venus juste présenter résultat de leurs années de travail.
On est loin du Ford Econoline qu'il y avait au campus du Collège Bois de Boulogne. est-ce que tu as eu un coup de cœur dans tout ce salon, Mathieu?
Oui, j'avoue que, tu sais, c'est sûr que l'association Honda-Sony, c'est comme un peu, tu sais, c'est gigantesque. La grosseur de cette association-là m'a vraiment impressionné. Je t'avoue que j'ai été impressionné par la quantité de compagnies que je ne connaissais pas qui se spécialisent maintenant dans les minibus autonomes. Et je dois avouer qu'il y a quelque chose qui m'a frappé, et c'est vrai dans le monde de l'automobile, mais c'était vrai aussi dans d'autres domaines techno que j'ai pu voir au CES, c'est la redondance des compagnies. Il y a des compagnies là qui étaient sur place, puis tu faisais une coupe de pas, puis il y avait une autre compagnie qui faisait sensiblement le même produit. Ils étaient concurrents. Puis je me disais, mais comment ça se fait qu'il y a autant de compagnies cette année qui font la même affaire ou des produits très similaires?
Ouais, ouais, ouais.
Puis dans le monde du Et ce qu'on va expliquer, puis en jasant avec d'autres personnes, c'est qu'il y a eu beaucoup de mises à pied dans les dernières années, dans le monde techno, dans le monde même de l'automobile. Et ce qui est arrivé souvent, c'est que des personnes qui travaillaient puis qui œuvraient en techno, qui avaient développé des super compétences, puis aussi qui avaient travaillé sur des produits qui s'en venaient matures et qui se font remercier ou qui décident de partir, ben vont probablement partir leur propre compagnie qui va être peut-être plus petite, mais qui vont proposer quelque chose de différent qui ne fera pas les mêmes erreurs qu'ils ont fait dans le passé. Donc,
fait que c'est une chasse ouverte, là, présentement.
Ben, c'est un peu ça. Ça me fait penser un peu dans le monde du jeu vidéo. T'as plein plein de jeunes qui rentrent et qui travaillent chez Ubisoft pendant un bout de temps, puis après ça, ils partent leur propre studio de jeux vidéo.
Ouais.
Fait que Ubisoft se trouve à former ce qui va être éventuellement leur concurrent. Et ils sont relativement à l'aise avec ça parce que ça fait partie d'un écosystème sain. C'est pour ça que le Québec se démarque dans le monde du jeu vidéo. Ben, il y a quelque chose de similaire, je trouve, en ce moment, dans le monde des minibus autonomes ou dans le monde de certaines technologies liées à l'automobile, mais aussi technologies au sens un peu plus large, je vous dirais.
Mathieu, merci beaucoup pour ce tour d'horizon du CES. On va en reparler davantage, toi et moi, parce que je sais que c'est un Toys R Us pour toi, cet endroit-là.
Ah oui.
Et tu t'en es ennuyé, évidemment, parce que ça n'a pas eu lieu pendant quelques années. Alors, merci, puis on se retrouve... on se retrouve dans très peu de temps à la télévision, parce que tu vas nous parler cette semaine de tes impressions de l'écran central du Toyota Tundra hybride. L'émission passe dans moins d'une heure. Là,
à TVA.
Hein? Hein, à oui. TVA, 11h30. Ça s'appelle le guide de l'auto. Merci, Mathieu.
Ah, c'est un bien bon programme. Hein? Ben, manquez pas ça. Mettez, programmez votre recordeur. Ouais.
J'ai mis une cassette flambant neuve, moi. Merci beaucoup, Mathieu.
On colle dessus pour que personne enregistre dessus.
Merci beaucoup, Mathieu.
Salut.
Cube Radio.